Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Hirou Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, Kaki Akiewa reçoit Dr. Joseph Kapita. C'est l'un des premiers cardiologues congolais. Il a soigné plusieurs personnalités dont le maréchal Mobutu et Nelson Mandela. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Docteur Kapita Bila, Joseph, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, spécialisé en cardiologie et médecine interne. Vous êtes parmi les premiers médecins de la République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre. Vous avez étudié à Lovanium, l'actuelle université de Kinshasa. Vous êtes allé en Belgique, vous êtes revenu encore au Zaïre en 1978. Parlez-nous un tout petit peu de cette expérience.
Vous savez que depuis l'enfance, je voulais être médecin. Et il y a déjà à l'école primaire, je dessinais des hôpitaux. Alors, je suis allé à l'école, du village, évidemment. J'ai commencé par l'école maternelle qui était dans le village. Chez nous, ça s'appelait Kiansuka. Le matin, Kiansuka. L'école du matin. Dans le village même, on allait à l'école, en fait, c'était à l'église, hein, la chapelle du village. Et là, il y avait un catéchiste qui nous apprenait à lire des consonnes de voyelles de 8h à 10h. Et c'était fini. Dans mon village natal. Oui. Après, je suis allé à l'école primaire. J'ai fait 2 ans dans le village même.
Oui.
Et puis, des missionnaires suédois avaient organisé un enseignement qu'ils appelaient sélectionné, des écoles sélectionnées. Ils cherchaient dans les écoles des enfants doués, selon eux,
oui,
qui pouvaient continuer. Et je me rappelle un suédois qui est venu dans notre école. Il s'appelait Larson. Il a posé des questions sur la Bible, sur la lecture, tout ça. Et selon lui, j'ai été sélectionné.
Parmi les élèves
continue. Ah bon, oui, selon lui, hein. Et alors, je suis allé dans un internat, c'était à 75 km du village. Et là, il n'y avait pas de véhicule pour y aller. Il fallait marcher à pied.
Oui.
C'était, je pense, le moment le plus difficile de ma vie. On allait à l'école une fois par mois, on restait là-bas pendant 1 mois. Et puis, on rentrait dans le village, chercher la provision, à manger. Mm-hmm. Et à l'école, il n'y avait pas de restaurant. Chacun devait se débrouiller. Mais bon, j'ai fini l'école primaire là-bas. Et puis, je suis allé à Kimpese. C'était l'école secondaire. Mais en fait, moi, j'étais à l'école des moniteurs. Et là, il fallait faire 4 ans. Après 4 ans, on était diplômé moniteur. On devait enseigner.
C'est ce que nous appelons aujourd'hui 4 ans poste primaire.
Voilà, oui. 4 ans poste primaire. J'étais à l'école des moniteurs. J'étais le plus jeune de la classe. 1 an après, on m'a enlevé de là pour aller à l'école secondaire. Parce que j'étais le meilleur dans la classe, alors qu'il y avait des étudiants mariés dans la classe où j'étais. J'étais comme un enfant parmi ces étudiants. Alors, je suis à l'école secondaire. J'ai fait 6 ans, j'ai terminé. Et alors, je me suis dit où aller. Fallait aller à l'université, je savais pas où aller. Et Kimpe, c'était l'école de protestants. Vous savez qu'à l'époque, les protestants étaient un peu sous-estimés. Les catholiques avaient, semblait-il, une meilleure éducation, une meilleure formation. Et Lovanium, c'était une université catholique. Et je suis allé là-bas. Et à l'admission, j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que j'ai dit que je voulais faire la médecine. On m'a dit, vous n'avez pas la base pour faire la médecine. Ceux qui font la médecine sont des gens qui ont fait des humanités gréco-latines aux scientifiques. Vous avez fait les humanités pédagogiques, il fallait à la faculté de psychologie et de pédagogie. J'ai dit à cette maman-là qui me recevait, c'est une dame flamande, Madame Van Damme, j'ai dit, moi, c'est la médecine ou rien. Elle me dit, mais je vous conseille, vous n'allez pas réussir, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas la base qu'il faut. J'ai dit, la médecine ou rien. Elle m'a dit, je vous inscris en propédéutique, année préparatoire. Avant d'entrer à l'université, vous faites l'année propédéutique ici à l'université, mais à la fin de l'année, vous allez présenter le jury, pas ici à l'université, vous allez à Kalina. Vous savez c'était quoi Kalina?
Gombe.
C'est Gombe.
Oui.
Donc à la fin de l'année, je suis venu à Kalina, dans un lycée belge, je présentais le jury là-bas. Et à Lovanium, j'étais dans une section physique et mathématiques, il n'y avait que ça, pendant toute l'année. Donc, je suis venu à Kalina pour présenter le jury, physique et mathématiques, chimie, et j'ai réussi. Avec mon certificat, j'allais à Lovanium présenter à Madame Banam, voilà mon certificat. Comment? Ça a été quand même. Ah, mais c'est fantastique. Mais bon, vous inscrivez en médecine, mais vous ferez la médecine à titre scientifique. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, même si vous réussissez à devenir médecin, vous serez pas pratiqué. J'ai dit, c'est pas un problème. Je vais faire la médecine à titre scientifique. J'ai commencé la médecine. En première année, on était 46 étudiants. 46. des blancs et des noirs. Et c'est la première fois que j'étais avec des blancs dans une école comme ça. On a fait 7 ans. Moi, je n'ai pas refait une année. J'ai passé toujours la première session. En doctorat, j'ai fait distinction. À tel point que j'étais retenu comme assistant pour devenir professeur à l'université. Mais c'était pas mon intention. Moi, je voulais devenir médecin généraliste. Aller travailler en brousse, pas être un médecin spécialiste ou cardiologue, non. Mais comme j'ai brillé comme ça à l'université, on m'a retenu assistant en médecine interne. J'ai fait 2 ans à Lovagnon. Je suis allé en Belgique, fais la cardiologie. Je suis revenu travailler, je suis revenu à l'université. Mais là, j'ai des problèmes, problèmes de logement, simplement. Et j'ai quitté l'université pour venir à Mamaïmo. C'est là où je suis maintenant. Voilà mon parcours.
Docteur Capitabila Joseph, vous êtes marié à Madame Maria Ferreira de Aguera, infirmière de formation. Vous n'étiez pas allé loin pour faire votre choix. C'est parce que vous vous êtes retrouvé à l'université de Kinshasa où il y avait une autre raison.
Non. En fait, moi j'ai eu beaucoup de défis dans ma vie, hein, de défis. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Moi je devais aller à l'école et réussir. Donc je fais un effort pour quitter la pauvreté dans laquelle je suis mes parents. Un premier défi. Donc j'ai terminé l'école secondaire, je suis allé à l'université, j'ai terminé, je suis devenu médecin, cardiologue. Et le deuxième défi que j'avais, c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais pas la base pour faire la cardiologie, la médecine. J'ai dit, je vais être médecin. On m'a dit non. J'ai dit, je vais être médecin. Je suis devenu médecin. Deuxième défi. Donc, pendant tout ce temps, moi, j'étais enfermé dans les livres. À Lovagnon, on m'appelait docteur Mabuse. J'étais caché. J'étais dans les livres tout le temps. Je lisais tout le temps. Donc, les filles, moi, ne m'intéressais pas du tout. Les femmes, ça m'intéressait pas. Et ma femme, je l'ai épousée, si vous voulez, par hasard. Elle était infirmière. Je la voyais aux cliniques universitaires, elle travaillait avec nous. Et puis un jour, je l'ai invité à manger. J'étais célibataire. On a mangé ensemble. Je lui ai demandé s'il était marié, s'il était fiancé. Il m'a dit non. Je lui ai dit, bon, si vous voulez, on peut se marier. Ça s'est passé comme ça, on s'est marié. Je suis pas allé très loin. Ça n'a pas été compliqué. Voilà.
Docteur Capita, vous êtes parmi les médecins qui ont découvert les sida au Zaïre. Vous avez connu des problèmes à cette époque. Parlez-nous de cet épisode de votre vie.
Oui. Ça a été... je dirais un drame pour nous. Nous, Africains, je dis Africains parce que le sida, en fait, a été découvert par les Américains, en Californie. Ils en ont parlé en 1981. Et quand je suis rentré de la Belgique en 78, dans les années 80, moi j'ai vu des cas de sida. Avant que les Américains n'en parlent. Mais je ne savais pas que c'était le sida. C'était quoi? C'était des gens qui souffraient de diarrhée chronique, des causes inconnues. Il y a des gens qui étaient très, très gros, qui fondaient comme ça, et qui sont morts. Et on a eu des gens qui développaient un cancer qu'on appelle Kaposi. Et alors, un cancer très agressif, où des gens faisaient la méningite à cryptocoque, très fréquente. On a même fait des publications sur la méningite à cryptocoque. On ne savait pas qu'on publiait sur le sida. Alors, quand j'ai entendu parler de sida, je me suis dit, cette maladie se trouve ici. Et puis, en 83, les Américains sont venus au Congo, avec des Belges. Ils sont venus à Mamaïmo faire une enquête pour voir si... Le problème se posait ici. Pourquoi sont-ils venus au Congo? C'est parce que, en Europe, ils commençaient à avoir des cas de sida venant d'Afrique. Et la plupart venaient de notre pays. Ils se sont dit, peut-être qu'il y a un problème là-bas. Nous allons voir. Ils sont venus à l'hôpital général. Et comme moi, j'étais le chef du département de médecine interne, ils sont venus évidemment me voir. J'ai dit, je suis au courant. Pour moi, il y a des cas ici. Ça. On connaissait pas la cause du sida. Ils n'avaient pas de tests spécifiques. Ils avaient des petits tests simples comme ça, qu'ils ont appliqués sur des patients que je signalais. Et pour eux, c'était positif. À partir de là, je suis devenu un spécialiste de sida. Alors que moi, j'étais cardiologue. Le sida, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie virale. Ce sont des infectiologues, des virologues qui s'occupent de ça, pas un cardiologue. Mais voilà, j'ai été embarqué. Donc, pour les Américains et les Belges, Capita, c'est les spécialistes. Dans les années qui ont suivi, j'étais invité partout. Je faisais pas 2 mois ici, je devais voyager. J'étais allé plusieurs fois aux États-Unis, au Canada, dans presque tous les pays d'Europe. Parler de sida. Mais j'ai des problèmes. Parce qu'en 86, on a fait une conférence internationale sur le sida à Paris. Je devais parler en session plénière, donc à l'ouverture de la conférence. Celui qui a parlé le premier, c'est M. Montagnier. Monsieur Montagnier, c'est lui qui a découvert le sida, en fait le risque du sida. Il a parlé après, lui, moi je parlais. Je parlais du sida en Afrique, devant une foule de gens qui sont venus du monde entier. Et à la pause, un médecin congolais m'a approché. Il m'a dit, docteur Capita, vous êtes venu à Paris pour faire les héros. Vous devez savoir que nous avons transformé avec une chance à tout ce que vous avez dit. Et nous attendons qu'on nous dise ce qu'on doit faire de vous. En plein Paris, hein. J'ai paniqué, franchement. Je suis allé voir notre ambassadeur, qui était à Paris à l'époque, Sakho Binongo, avec quelqu'un d'autre que je connaissais. Je l'ai supplié de donner un message à la présidence. Parler avec le directeur de cabinet de l'époque, de Mobutu, Maître Gimbe. Dites-lui que Dr. Kapita est un médecin. Il ne fait pas de politique. Il est venu parler d'une maladie qui est connue internationalement. Et c'est tout. Après la conférence, je suis entré au Congo et j'arrive à la maison. Invitation du ministre de la Santé. Je devais le voir. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. J'ai beaucoup de journaux. C'est moi qui parle de vous. Je dois vous voir. C'était le ministre de la Santé qui s'appelait Ngando Kabeya. Je suis allé au ministère de la Santé demander une audience. Je ne l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand la conférence est terminée, le gouvernement, tout le gouvernement était alerté, y compris le premier ministre de l'époque, Ken Wadonde. Lui, il est allé voir Mobutu en disant, voilà, il y a un médecin zaïrois qui est allé à Paris, il a dit ceci, il a dit cela. Mobutu était déjà informé. Il lui a dit, il y a un médecin, hein. J'étais sauvé. Donc, Ngando Kabeya n'avait plus le courage de me poursuivre parce que bon, c'était coupé court. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Et après, Ngando Kabeya, c'était un ministre qui s'appelait Machako, professeur Machako. Oui, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Lui, il voulait plus me voir. Il a fait effacer mon nom de tout document qui parlait de moi. Alors, je me suis retiré carrément. Je ne m'occupais plus de ce problème. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'occupe plus. Je ne sais pas ce qui se passe sur la recherche sur les... Voilà.
Docteur Kapita, avez-vous créé les PNMLS?
Non, en fait, moi, j'ai pas créé, hein. PNMLS, c'est un programme national de lutte contre le sida, quelque chose comme ça, oui. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est le gouvernement congolais qui a, c'est tout ça. Moi, j'étais comme un conseiller comme ça, de tous ces gens-là. Mais comme j'ai senti que j'ai combattu, ce que je fais, c'était dans mon domaine, la cardiologie. Vous savez que, on a des sociétés savantes, chez les médecins, toutes chez d'autres disciplines. En cardiologie, en gastro-entéro, etc. Il y a des sociétés savantes. Nous avons aujourd'hui notre société congolaise de cardiologie. Elle n'existait pas. Elle est là maintenant et c'est moi qui l'ai créée. Parce que je me suis rendu compte que les cardiologues congolais ne se réunissaient pas, se voyaient pas. Il n'y avait pas de réunion pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et moi, j'ai fait créer cette société avec un médecin d'Engaliema qui s'appelle Dr. Takombe, le cardiologue. On a créé et pendant 5 ans, j'étais le président de tous les cardiologues du pays. C'est comme ça que je me suis rendu compte que notre pays n'a pas de cardiologues. Oui, parce qu'il y a 10 ans, on était une quarantaine de cardiologues dans tout le pays. Au Congo central jusque maintenant, il n'y a pas de cardiologues. Dans l'ex-province de Bandundu, il n'y a pas de cardiologues. De l'Équateur, il n'y en a pas. Province orientale, il n'y a pas. Il y avait un au Nord Kivu, un au Sud Kivu. Lubumbashi, 3-4. Kasai, oriental, 1. Kananga, 1. Et c'était tout. Alors, on a fait un effort pour que des jeunes s'intéressent à la cardiologie. Maintenant, je pense qu'on est une centaine. Donc ça, je suis content parce qu'en fait, c'est mon œuvre.
Docteur Kapita, vous êtes parmi les médecins qui ont côtoyé les présidents Mobutu et vous étiez même son chevet avant qu'il ne quitte les Zaïre à l'époque. Vous avez soigné également ses enfants. C'était facile pour vous?
Non, non, non. C'était pas facile parce que moi, je connaissais pas les critères de sélection pour être médecin du président. Je connaissais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de critères. Et j'avais l'impression que travailler là-bas, c'est comme faire de la politique. C'est vrai que moi, j'ai été sollicité plusieurs fois pour voir les enfants du président Mobutu. Et j'ai vu, j'ai consulté. De temps en temps, le président avait des problèmes. J'étais consulté. J'ai donné mon avis. Mais je ne pouvais pas le voir. Et une fois, un médecin qui était à la présidence, un gynécologue, est venu me voir. Il m'a dit, docteur Kapita, on a besoin de vous à la présidence. Son médecin qui est là, il est chirurgien, mais lui, le président est en train de vieillir. Il a besoin d'un interniste, un cardiologue. Donc vous serez appelé à la présidence pour être son médecin. J'ai dit à ce médecin, merci beaucoup. Mais je ne saurais pas travailler. Comme vous le faites. Je suis pas capable. Moi, je suis médecin de plusieurs malades et je ne peux pas m'occuper d'un individu. Vous levez le matin, vous allez le voir, prenez sa tension, peut-être faire un peu plus. Et puis, se déplace. Vous déplacez. Il va à Guadeloupe, vous allez à Guadeloupe. Il va en Europe, vous allez en Europe. Je dis, moi, je suis pas capable. J'ai une famille, j'ai des enfants qui sont jeunes. Je dis pas non. Je suis disponible. 24 heures, c'est 24 heures. C'est un problème. Je voulais pas travailler comme vous. Allez dire ça, de votre manière. Faut pas que les gens aient l'impression que j'ai dit non. Je dis pas non. Ça s'est arrêté là. Mais, entre temps, je voyais sa femme. De temps en temps, on me faisait appeler, j'allais avec leur médecin, je voyais là-dedans, mais je fais ce que je pouvais faire. Sauf que, 5 jours avant l'entrée de l'AFDL, j'étais appelé là-bas. C'était pour voir maman, la dame, le président. Il avait des malaises. Je l'ai vu examiner, j'ai dit, maman, il n'y a rien. Peut-être c'est dû au stress. Makambemi Koloyo. Tout le monde savait que Kabila était en route. Tout le monde paniqué. Alors, elle me dit, t'as la paix, papa, parce que ça a bien été. On m'a fait entrer, là, je l'ai trouvé, je l'ai vu. Il était très fatigué. J'ai fait ce que j'ai pu. On est parti. 5 jours après, il a quitté Kinshasa, il est allé à Bado, et le lendemain, samedi, l'avion est allé en exil. Voilà, donc, j'étais pas présent là, mais plutôt à la présidence, mais j'ai beaucoup fait pour, je me rappelle même qu'un soir, il avait de gros malaises, avant qu'il ne quitte, hein, bien avant, de gros malaises, un problème cardiaque comme ça. On m'a appelé, je suis allé, et là encore, on m'a empêché de le voir. Alors qu'il avait des palpitations, il fallait faire un examen qu'on appelle l'électrocardiogramme. Mais on m'a dit, montrez à une infirmière comment faire ça. Il va le faire et puis il va montrer le papier. L'infirmière est allée, a fait l'électro, il me dit, mais il y a tel problème. Mais oui, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut donner tel médicament. Allez chercher le médicament. Ce que j'ai fait. Le lendemain, tout s'est normalisé. Donc voilà, c'était un milieu que je n'aimais pas. C'est vraiment politique. Et je sentais qu'on m'empêchait de le voir en personne.
Alors, docteur Kapita, vous aviez soigné aussi les dignitaires du Zaïre. Comment avez-vous vécu cette expérience?
Vous savez que les dignitaires, j'en ai soigné beaucoup. Mais le plus important, dont je me rappelle, c'est Ngounz Kalibong. Ngounz Kalibong a été à un moment donné ministre des Affaires étrangères. Puis un médecin de l'université m'a envoyé une note en me disant, il faut aller voir votre malade, il n'est pas bien. C'est qui c'est malade, Ngounz Kalibong? J'ai dit, mais je connais pas Ngounz Kalibong. Il n'est pas malade, moi je le connais pas. Je suis allé quand même le voir, je me présente, je dis voilà, on m'a dit que vous êtes mon malade. Il me dit non, n'êtes pas mon médecin, mais bon, je me sens pas bien, examinez-moi. Je l'ai vu, et j'ai vu qu'il avait un gros problème cardiaque. J'ai dit, on va maintenant engager moi, l'examen. On est allé, on a un problème, je l'ai soigné, et puis un jour il m'appelle en disant, je vais en Suisse, vous m'accompagnez. On est allé à Genève, j'étais avec le médecin là-bas. Et puis, on est rentré. Je l'ai suivi. Et puis, il n'y avait plus de contact. Et puis, il est devenu premier ministre. Et puis, un matin, paraît-il, il est allé à... Il devait présider la réunion du conseil des ministres. Un vendredi matin. Alors, le matin, il dictait quelque chose à sa secrétaire, puis il est tombé. C'est lorsqu'on m'a dit, hein. Il est rentré à la maison. On m'a cherché. On m'a trouvé. Et c'était le médecin du président Mobutu qui me cherchait comme ça. Ah, voilà, on te cherche, il y a un problème. Je pense que c'est une malaria. Il est tombé. Où est-il? Ah, à tel endroit. Je suis allé là-bas, je l'ai vu. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que quand il me voit, il me dit, mais vous, c'est qui encore? Alors qu'il m'a donné, moi, je l'ai soigné. Il y avait un trou de mémoire. Je l'ai examiné, j'ai dit au professeur Biomi, il a un problème. Il a fait un petit AVC. J'ai dit, en gros, vous êtes premier ministre, vous pouvez pas sortir de votre appartement sans mon autorisation. Vous devez rester ici. Vous donnez un traitement. J'allais le voir tous les jours. Et vous, les journalistes, vous avez commencé à écrire dans les journaux. Ah, Ngounz a fui, caricature dans les journaux, Mobutu en train d'arracher la dent. Ngounz, il est allé en Suisse, problème de dents, il a fui. Et moi, je le voyais tous les jours. Même à mon cabinet, les gens me disaient, mais docteur Oyebi a Kimi. Je dis, peut-être oui. Je le voyais tous les jours. Comme les gens parlaient beaucoup, disaient qu'il a fui, j'ai dit, à ces messieurs, j'ai dit, les gens disent que vous avez fui. Il fallait vous montrer un vendredi à la réunion, conseil des ministres. Mais il faut pas rester là. Vous vous montrez là-bas, vous saluez tout le monde, et puis vous sortez. Moi, j'avais suivi la télévision. Je sais qu'il a fait. Je regardais la télévision le soir. Il est allé là saluer ce ministre, il est parti. Et puis un matin, je vais chez lui pour le voir. On me dit, il n'est pas là. À Kewapi. Il est allé à Gwanda. Il dit, mais je lui avais dit, vous pouvez pas. Et depuis, il n'y avait plus de contact. Et puis, il n'est plus premier ministre, il est devenu ministre de la Défense. Et là encore, il a fait un petit problème cardiaque. Je sais pas. On m'a appelé en Galéma. Il est en Galéma, en Terne. Je suis allé, je l'ai vu là-bas, il venait de faire un accident vasculaire cérébral. Quelques jours après, on l'a transféré en Afrique du Sud. Et là, on l'a soigné, et puis on l'a transféré. C'était à Jobo, il est allé à Cape Town. Et lorsqu'il devait rentrer au Congo, il fallait mettre à bord. Moi, encore appelé, je suis allé là-bas, je l'ai accompagné pour rentrer au Congo. Et puis, il y a d'autres dignitaires. Il y en a qui sont morts, je vais pas citer leurs noms, des ministres, hein, tout ça. Mais bon, il fallait faire tout ça de façon discrète. Parce que vous savez que c'est toujours dangereux, hein, s'occuper des gens comme ça. Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais filé. Hein. Les gens me cherchaient. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont attrapé en cours de route quelqu'un qui a une voiture comme la mienne. On l'a poursuivi, on l'a attrapé. On dit, mais vous, docteur Kapita. Il dit, mais je suis pas docteur Kapita. Je connais même pas ce qui. Non, c'est vous. Il dit, non, je suis pas docteur Kapita. Il est allé dans un garage avec sa voiture, cabossé. Il a raconté son aventure. Il le disait à un mécanicien qui connaissait un médecin de Mamaïmo. Et lui a appelé ce médecin en disant, vous savez un médecin là-bas qui s'appelle Kapita? Il me dit, oui. dites-lui qu'on le recherche. Il doit faire attention. Alors, j'ai fait un lien entre cet accident-là et ce que j'ai fait avec les dignitaires. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais c'était dangereux. Mais bon, voilà, je suis encore là.
Radio Capi, grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, Kaki Akiewa reçoit Dr. Joseph Kapita. C'est l'un des premiers cardiologues congolais. Il a soigné plusieurs personnalités dont le maréchal Mobutu et Nelson Mandela.
Docteur Kapita, vous avez passé votre carrière à Mamayemo, l'hôpital général, comme vous l'aviez dit vous-même. Pourquoi pas aux cliniques universitaires où vous avez débuté votre carrière de médecin?
La réponse est simple. Moi, j'ai été envoyé en Europe par l'université. Je suis revenu à l'université après ma formation en Belgique. Mais il y a eu un accident. C'est-à-dire qu'avant de rentrer définitivement avec toute ma famille, il y avait ma femme, il y avait maman Anna qui est là-bas, et puis son frère aîné, le commandant Bilan, et José qui avait 3 mois. Avant de rentrer avec toute cette famille, je suis venu pour un problème de logement à l'université, sur le campus des professeurs. On m'a donné toutes les assurances. On m'a dit, pas de problème, il y a des maisons, dès que vous êtes arrivé, on vous loge. Je suis rentré en Belgique, récupérer ma famille. On est venu. On est allé tout droit à l'université. On me dit, pour le moment, il n'y a pas de logement. J'ai dit, non. J'étais ici il y a 3 mois. J'ai rempli un formulaire pour occuper une villa. On me dit, non, il faut attendre. J'ai dit, cherchez-moi un studio où je peux mettre nos affaires et garder ma famille. Entre-temps, on n'était pas payé. Ma femme était chez son oncle. Moi, j'étais chez un neveu. Les enfants étaient avec leur maman. On a attendu comme ça. 1 semaine, 2 semaines. Pas de logement. Et finalement, on a trouvé un logement à Binza. La maison d'un beau-frère, en fait, en lingala, on dit Mbanda. Sa femme, c'est la petite sœur de ma femme. Elle avait une maison à ma campagne, vite, inoccupée. Il nous a dit, allez là-bas, chez moi, en attendant. On est allé là-bas. Entre-temps, j'allais aux cliniques travailler chaque jour. Mais en même temps, à Mamayemo, on avait besoin d'un cardiologue. Il y avait là un Belge qui partait définitivement. Il fallait le remplacer. On me sollicitait, moi. Puis aller comme médecin visiteur, consultant. Chaque fois, je disais non. Je suis pas médecin de Mamayemo, moi je suis depuis l'université. Alors, en étant à Binza, un soir, un blanc s'amène, nous disant, voilà, j'ai payé la garantie de cette maison. C'est un vendredi, et je dois entrer ici le lundi. Donc il faut libérer la maison. Alors c'était tragique pour nous, parce qu'il fallait maintenant trouver rapidement une solution où se loger. Le samedi matin, je suis ma femme, mes enfants, on est allé à l'université. On a trouvé le chef de département de médecine interne en disant, voilà, on est délogé là où nous sommes. Donnez-nous une petite place là en attendant. Oh non, il faut attendre, il n'y a toujours pas de logement. Vexé, j'ai laissé ma famille à Binza, je suis venu à Mamayemo. J'ai trouvé les autorités en disant, finalement, j'ai décidé de travailler avec vous. Oh, Dr. Kapita, qu'est-ce qui a changé? On vous le demande depuis longtemps, vous dites non, non, non. J'ai dit non, il n'y a rien qui a changé. Mais je vais vous aider à faire des consultations. Oh, c'est très bien. Dans ce cas-là, on va vous loger lundi. Et puis, je sors du bureau. Je sortais du bâtiment administratif et Diomi, qui était le directeur du SAF. Me voit à l'entrée. Ah, capitaine, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, non, je suis venu dire que finalement, j'accepte de travailler avec vous. Ah, mais c'est très bien. Allez, viens dans mon bureau. On est monté dans son bureau. Et pendant qu'on parlait avec lui, le monsieur que j'ai vu avant lui monte. Il dit, docteur capitaine, villa qui est prête maintenant. Voici les clés. Oh. Alors, j'étais pris au piège. Après, la conversation avec Diomi, je suis allé à Mimosa. C'était Mimosa. J'ai ouvert la maison, une villa splendide. Équipée. Il y avait tout dedans, tout. Belle résidence. Je suis allé à Binza, j'ai dit à ma femme, voilà, on est logé. Et le dimanche, on a déménagé. Alors, la semaine qui suit, les gens des cliniques apprennent que moi, je suis logé à Mamayemo. Ils m'appellent en disant, il y a une villa qui est prête. J'ai dit, non, c'est trop tard. Parce qu'à Mamayemo, ils se sont précipités pour intéresser le ministre de la Santé, qui s'appelait Dr. Nsita, qui m'a affecté tout de suite à l'hôpital. J'ai dit, contactez le Dr. Nsita. Dites-lui que vous avez besoin de moi. Parce que moi, je peux plus décider. Je suis pas un enfant, C'est trop tard. Mais je travaille avec vous et avec Mamayemo. Pendant 6 mois, je travaillais donc, j'étais à cheval entre les cliniques et Mamayemo. Jusqu'au moment où, pour des raisons X, Y, j'ai décidé de travailler seulement à Mamayemo. Voilà comment je suis arrivé à Mamayemo. Ok? Mais il faut savoir que dès le début, moi, je voulais pas être un médecin spécialiste. Je voulais être un médecin généraliste, travailler en brousse. Je voulais construire des hôpitaux, par le travail, par peut-être le sort. Et je suis devenu ce que je suis. Donc, je me trouve à l'université, et puis à Mamayemo. Mais quelque part, malheureusement, comme on dit, parce que, en fait, Mamayemo m'a permis d'être connu à travers le monde entier, à travers le sida, là. si j'étais universitaire, j'aurais pas eu cette chance. Et puis bon, voilà, le bon Dieu m'a dévié de mon trajet que j'ai prévu personnellement, et puis bon, ça a été quand même, voilà. Je puis envoyer les enfants étudier à l'étranger, ils sont tous bien placés. C'est grâce à ma présence en Mayenne.
Docteur Kapita, parce que vous parlez de vos enfants, vous avez une fille qui est également un médecin gynécologue. Vous discutez aussi de temps en temps, profession, avec elle. Elle vous a demandé votre avis avant de faire aussi la médecine?
Je ne me rappelle pas. Elle est là. Vous m'avez demandé l'autorisation? Non, hein? Non, je pense qu'elle a été inspirée par le travail de son papa. Elle a voulu faire la médecine. Moi, j'ai fait la médecine à Lovagnon. Elle a fait la médecine à Louvain. Louvain-la-Neuve en Belgique. C'est là qu'elle a fait toute sa médecine. Et en plus, elle a fait la spécialisation là-bas. Elle est gynéco-obstétricienne. Elle a beaucoup travaillé. Vous savez qu'elle était dans le staff de gynéco dans la clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Elle était bien intégrée, elle travaillait bien. Puis un matin, elle m'appelle en disant « Papa, je rentre au Congo ». Je dis « Comment ?» Elle me dit « Non, ici, c'est bien, mais tout ce que je gagne, c'est parti dans le logement, le loyer, les taxes et tout ça ». Je rentre au Congo, j'ai dit, mais tu viens chez toi, hein, tu es la bienvenue. Elle est venue, elle peut témoigner. Hein. Moi, je trouve qu'elle n'a plus de temps. Elle fait que travailler, elle a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je pense que quelque part, comme moi, hein, le bon Dieu est en train de l'orienter comme il veut. Et s'occupe assez bien en même temps de sa famille, parce qu'elle est maman, hein, elle a ses enfants. Mais ça se passe bien apparemment.
Docteur Kapita, vous aimez beaucoup votre village, Kinsemi, dans les Manyanga. Vous avez même construit un grand centre de santé là-bas. Pourquoi?
Ça, c'est une bonne question. Non, mais ça, c'est vraiment mes ramenons au départ. Je vous l'ai dit, moi, je suis un paysan. Je suis né à Matadi, mais j'ai grandi au village. Donc, chaque fois, mon esprit est tourné au village. Et je vous l'ai dit, je ne voulais pas être un médecin spécialiste. Je voulais être un médecin généraliste. Depuis l'école primaire, moi, je dessinais des hôpitaux. Pourquoi, je ne sais pas. Mon papa n'a pas été à l'école. Mais mon papa savait lire et écrire. Il a appris tout seul. Dans l'époque coloniale, mon papa était porteur de mal, des missionnaires soudains. Mal dans lesquels il y avait des médicaments, des seringues, parce qu'il passait de village en village, faisait des vaccinations, était les gens. Et mon papa portait la mal, contenant tous ces produits. Et paraît-il, avec le temps, lui-même, on l'a appris à piquer, à faire des piquets chez le malade. Bon, maintenant, je ne sais pas mettre un lien, faire un lien entre lui et moi. Mais à un moment donné, il en avait marre de porter des mal de missionnaires. Un jour, il se trouvait dans un village qui était tout près du fleuve Congo, là-bas chez nous. Il a déposé la malle quelque part, il a disparu. Il a traversé le fleuve, il était à la Matadi, engagé comme ouvrier à l'Outracon. Et puis avec le temps, il est devenu un grand employé parce qu'il était machiniste des grues. C'est alors que je suis né. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien entre lui et moi, la médecine? Mais je suis content parce que je tenais absolument à construire un hôpital. En fait, j'en voulais en construire deux, un hôpital au village pour aider les gens. Hein. Vous savez que l'hôpital est là, il y a un médecin qui est là en permanence, il y a des gens qui travaillent. Et moi, je vais tous les 3 mois pour travailler et faire des consultations. Et récemment, j'ai été au mois de septembre dans le village avec ma femme. Vous savez que j'ai trouvé une foule terrible à l'hôpital. En 2 jours, j'ai vu, je crois, 100 de personnes en consultation. Mais ça me rend très content. Je suis fier de faire ça. Et tout ce que les gens payent là-bas, je prends pas 1 franc. Tout reste là-bas. Je suis pas payé pour ça. Le deuxième hôpital que je voulais construire, c'est un PC. Mais là, c'est un centre spécialisé. C'est pour les maladies cardiovasculaires. Comme je vous l'ai dit, dans tous les Congo central, il n'y a pas de cardiologue. Donc, je voulais mettre là-bas un centre de maladies cardiovasculaires pour toute la province. Comme qu'il puisse être au milieu de la province. Peut-être que les gens vont venir de partout pour se faire soigner là-bas. Parce que maintenant, je reçois des gens qui viennent de Mwanda, de Boma, de Matadi, de Louise, pour venir me voir à Kinshasa. S'il y avait un centre à Kinshasa, ça aurait été plus facile pour eux de me voir. Ils allaient payer dépenser moins d'argent pour le voyage et... Voilà, donc je suis un paysan, je voulais créer une structure médicale pour les paysans, je l'ai fait, et je suis très content. J'ai amené ma fille ici, Anna, elle a vu l'hôpital, elle connaît également l'hôpital de Kinshasa. Et non, moi je fais ce que je peux faire, et la suite c'est qui? La suite c'est sont les enfants.
Alors, docteur Kapita, qu'est-ce que votre clan, votre famille élargie tente?
Bon, ça représente beaucoup de choses, hein. Le clan représente beaucoup de choses. Vous savez, nous, on est de Bakongo. Nous avons 2 clans. Il y a le clan paternel, auquel on n'appartient pas. Il y a le clan maternel, auquel on appartient. Je suis du clan de ma mère, parce qu'on est matrilinéaire, ok? Et au moment où je vous parle, dans mon village maternel, dans mon clan maternel, je suis le responsable numéro 1. Rien ne peut se décider au village sans mon avis. Et malheureusement pour moi, au niveau du clan paternel auquel moi je n'appartiens pas, à un moment donné, il n'y avait pas en fait de responsable. Et mon papa, un jour, avant de mourir, il m'a dit, « Capitaine, tu n'as pas le droit d'aller construire une maison dans ton village maternel. J'ai fait de toi un membre du clan, de mon clan. » Si bien que, après sa mort, pendant des années, j'étais le numéro un du clan de papa. Je m'occupais de tous les problèmes. C'est moi qui avais tout le document de leur terre. Jusqu'au moment où il y a eu un neveu qui était assez adulte, je dirais. Je lui ai remis tous les documents devant ma femme d'ailleurs. Tous les documents de leur terre. Donc je me suis déchargé un peu du clan de mon père. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très attaché aux deux clans, maternel et paternel. Et voilà. Ma vie est toujours en partant au village.
Docteur Kapita, Nelson Mandela arrive à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était comment?
Bon, vous savez que Mandela est en prison. Et lorsqu'il est sorti de la prison, le président Mobutu l'a invité ici pour visiter le Congo. Puis il est arrivé. Mais comme il était déjà vieux, âgé, sa santé n'était pas très bonne. Donc les autorités ici avaient peur qu'il lui arrive quelque chose pendant qu'il est ici. Et donc il fallait un médecin. Donc j'ai été appelé par la présidence en disant Mandela est là, il faut un médecin, il faut aller partout où il va. Il va dormir au palais de Marbre et vous devez dormir là-bas parce qu'on ne doit pas vous chercher la nuit s'il a un problème. Donc pendant tout le temps que Mandela visitait le pays, j'étais avec lui. Je devais savoir comment il allait chaque matin. How do you feel, Mr. President? Oh, I feel well, thank you, doctor. Et alors, lorsqu'il devait rentrer en Afrique du Sud, on m'a dit il faut monter dans l'avion. Parce que le président Mobutu avait donné son avion pour son retour en Afrique du Sud. Et on m'a dit il faut monter dans l'avion. Il faut le voir rentrer dans son pays et puis rentrer. Ce que je fais. D'ailleurs, j'arrivais à Jobo pour la première fois. Mais on n'est pas sauté l'aéroport. Il est sauté l'avion, il est allé chez lui. On est resté à l'aéroport. Le lendemain, on a repris le vol pour rentrer au Congo. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Mandela. Malheureusement, je n'ai pas de photos de ce moment-là, oui, parce que les gens m'ont demandé, mais tu n'as pas fait des photos avec Mandela, j'ai dit malheureusement. Et une fois, on est allé à Jobo avec ma femme. Et puis, il a eu un problème de passeport. C'est un petit problème banal comme ça. C'est-à-dire que quand sa fille Teza, je viens d'entendre qu'elle est là, elle est allée accoucher en Afrique du Sud, sa maman l'a suivi avec un visa. Elle a quitté le pays le jour même où le visa terminait. Mais pour les Sud-Africains, c'est un problème. Fallait qu'elle quitte un jour avant. On l'a laissé sortir du pays et elle est venue ici. Mais quand on est rentré maintenant avec elle, on arrive à l'aéroport, on regarde dans l'ordinateur, on retrouve le problème. Je dis, mais vous avez un problème, quel problème? Alors j'ai dit aux gens de l'aéroport, vous savez que moi, je suis médecin. Vous savez que moi j'ai été médecin de votre président. Quel président? Mandela. Yo! Ah! You are a big man, hein? Ils ont laissé tomber l'histoire de ma femme. On est entré dans le pays. Voilà.
Docteur Kapita Bila. Vous avez aussi un autre fils, commandant des bords, pilote des lignes, je cite Christian Bila. Est-ce qu'il vous a déjà pris une fois dans son avion?
Oui, deux fois. Deux fois, la première fois, il était copilote. En fait, copilote, oui. Mais la première fois, c'est lorsqu'il était en formation aux États-Unis. Je suis allé le voir et il commençait à voler seul, dans un petit porteur comme ça. Et puis un jour, on arrive à l'aéroport. Un petit aéroport, quoi, de... Il me dit, papa, on fait un tour. Voler. Du quoi? Avec moi? J'ai dit, non. Nakomatate. J'ai dit, tu peux partir seul. Moi, je vais attendre ici, hein. Et puis, là, il a décollé, il est parti. J'attendais, puis il est revenu. Là, j'ai raté ton premier vol avec lui. Et puis, ici, il rentre au Congo, et puis il est à Ewabora. Nous, on devait aller à Bruxelles. Avec Abora, on a pris cet avion et les commandants, les pilotes, c'était le commandant Marion et le commandant Bila. Enfin, Bila, il était copilote à l'époque. On monte à l'avion et puis le commandant Marion nous invite dans le cockpit. Il nous dit, voilà, c'est votre fils qui va piloter l'avion. Bon, moi j'étais curieux de voir un peu comment ça marche parce que bon, on est dans le cockpit. Et le pauvre Christian, je l'ai vu crisper, hein. Oui, et puis faire le taxi. On arrive au point de départ et puis il décolle. Ah, il pétait pas un mot, hein. Il était vraiment concentré. Et avant de voler, ma femme avait peur. Elle voulait pas regarder. Ah, elle a fermé les yeux comme ça. Moi, au contraire, j'étais là. Regardais le tableau de bord. Et puis, bon, l'avion a décollé. Il est arrivé à l'altitude de croisière. Et on nous a dit, vous rentrez dans mon siège. On est rentré. Et puis on arrive à Bruxelles. On commence à descendre. Je suis rentré encore dans le cockpit pour voir comment ils descendent. Ce que j'ai vu, c'est que moi, je regardais dehors. Je voulais chercher, voir le piste. Et il ne regardait pas la piste. Il regardait le tableau de bord. J'ai dit, mais il va arriver comment? Pourquoi il ne regarde pas devant? C'est ça où trouve la piste. Non, il regarde le tableau de bord. Et je voyais qu'effectivement, sur les instruments de bord, là, il y avait comme une descente comme ça. L'avion perdait l'altitude. Comme moi, j'étais fixé vers le devant de l'avion, et puis brusquement, j'ai vu la piste de l'avion. Et puis l'avion se posait calmement. Ça, c'était la première fois que mon fils pilotait dans son avion. La deuxième fois, on est allé à Guémena. Là, il y avait un problème avec le gouverneur de l'Équateur, en Bandak. Il était très malade. Il ne savait pas se déplacer. Et Christian m'a dit, papa, on a un problème. Le gouverneur en Bandak ne sait plus se déplacer. Il est très malade, il faut aller le voir. Si tu veux, tu viens avec moi. Parce que moi, je vais à Guémena. Mais enfin, on fait un stop en Bandak comme ça. Tu vas le consulter et puis on continue. On est allé. On est arrivé en Bandak, j'ai vu le gouverneur. C'était un problème de maladie qu'on appelle goutte. Il ne savait pas se déplacer. Donc, je lui ai proposé le traitement. On est rentré à l'aéroport, on a repris l'avion, on est allé à Guémena, et de là, on est rentré à Kinshasa. Deuxième fois. C'est, jusque-là, c'est la dernière fois.
Docteur Kapita, vous aviez 22 ans d'âge lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce que vous avez vécu vous-même?
C'est peut-être une question difficile pour moi, parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé à la politique. Mais moi, j'ai vécu l'époque coloniale. Comme je vous ai dit, j'étais au village. Les Belges étaient les maîtres de ce pays. Mais le pays était très bien organisé. Sur le plan sanitaire, par exemple, je savais que dans chaque territoire, il y avait un Belge qui était un agent sanitaire, qui s'occupait de l'hygiène dans tous les villages du territoire. Je me rappelle que cet agent sanitaire passait parfois par notre village, fait des vaccinations, cherchait des gens, ganglier, chercher des ganglions sur des gens pour voir si on n'a pas la maladie du sommeil, parce que la maladie du sommeil était répandue à l'époque. Donc ce Belge passait pour des soins vraiment primaires, qu'on appelait primaires dans le village, dépister toutes les maladies qu'on pouvait dépister à ce moment-là. Et tous les villages étaient propres. L'agent sanitaire visitait presque chaque maison du village. Le WC, par exemple, devait être à une certaine distance de la maison d'habitation. Pas à 10 mètres, hein. Il y avait une certaine distance qu'il devait respecter. Fallait pas qu'il y ait dans le village de boîtes vides qui traînaient, parce que l'eau pouvait s'aller dedans, et c'était un milieu propice pour les moustiques. Donc, sur le plan sanitaire, les choses étaient vraiment bien organisées. Les routes n'étaient pas asphaltées, mais les routes étaient praticables partout, parce qu'il y avait des cantonniers qui étaient sur les routes, partout, qui travaillaient, qui arrangeaient les routes. Un chef de secteur était une grande autorité. Il avait sa police, il avait sa prison, il avait son tribunal. C'était un grand chef. Il y avait de l'ordre, de la discipline. Et puis est venue l'indépendance. Le désordre a commencé. Quand Savobo, le pauvre, il n'a pas fait longtemps. Et puis, on lui a fait un coup d'état. On l'a fait partir. Mais avant ça, on a eu beaucoup de problèmes. Au moment où le pays a accédé à l'indépendance, moi, je venais terminer à Kinshasa. Qu'est-ce que les missionnaires nous disaient? Notamment les Américains. Parce que bon, nous, à l'école secondaire, nos professeurs blancs étaient des Suédois, des Américains et des Anglais. En fait, j'ai connu les Belges à l'Ovanium, hein, comme professeur, comme enseignant. Donc, les Américains disaient que Lumumba était un communiste. Enfin, le communiste. Les Anglais et les Suédois, c'était la même chose. Donc, un type détestable. Comme vous le savez, il a été assassiné. Mobutu fait son coup d'état. Kassavubu est relégué dans son village. Il est mort là-bas. Mobutu a fait ses 30 ans de règne. Bon, le mérite pour lui, c'est qu'il a gardé l'unité du pays. Mais sur le plan de développement, on n'a pas beaucoup avancé. Parce que nos routes sont dégradées partout. Et moi, je me rappelle pas, jusqu'à aujourd'hui, avoir vu dans ma région un hôpital conçu par l'État. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai conçu un hôpital. L'État, dans mon territoire. Et un territoire qui est grand comme le tiers de la Belgique. Donc, Mobutu n'a pas fait grand-chose. Il a fait quelque chose, hein. Je dis qu'il a gâté l'unité du pays. Mais en dehors de ça, on n'a pas beaucoup avancé. Peut-être que comme nous sommes des conservateurs, tu peux dire qu'il a fait construire un pont. Le pont Maréchal à Matane. Ça, c'est quand même un pont positif. Après lui, c'est Mosé, qui a fait juste 2 ans. Connaissait l'histoire, il est assassiné. Mais tout le monde, finalement, a fondé l'histoire sur lui, parce que lui, il a imposé la discipline, il a mis de l'ordre, il a fait emprisonner beaucoup de gens, pour raison de détournement d'argent et tout ça, mais cela a coûté la vie. Et puis, il a voulu responsabiliser les Congolais, pour qu'ils se prennent en charge. C'est-à-dire que les étrangers, les Belges, les Français, les Américains, avaient très peu de possibilités d'exploiter le pays. Je pense que c'est lui qui a coûté très cher. À cause de ça, comme il a voulu fermer les pays aux étrangers, on l'a éliminé. Son fils est venu. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. En tout cas, dans ma région, rien. Maintenant, c'est Tshisekedi qui est là. La situation n'est pas très très bonne, à mon avis. En tout cas, jusque-là, dans ma région, je vois pas une chose positive. Donc, je suis pas un politicien. Je m'intéresse pas à la politique. Vous savez que si j'avais de l'appétit pour ça, avec tout ce que je fais dans mon village, je serais porté candidat à député. Ça m'intéresse pas.
Le grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, Kaki Akiewa reçoit Dr. Joseph Kapita. C'est l'un des premiers cardiologues congolais. Il a soigné plusieurs personnalités dont le maréchal Mobutu et Nelson Mandela.
Docteur Kapita, vous comptez publier vos mémoires l'année prochaine dans un ouvrage. Pourquoi vous ne l'avez pas fait si tôt?
Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? En fait, j'ai commencé à le faire plus tôt, mais je le faisais tout seul. J'ai commencé à écrire avec mon ordinateur, et puis un jour, cet ordinateur a disparu, volé. Donc tout ce que j'ai écrit est parti. Alors, et puis j'ai laissé tomber, mais les enfants ont insisté que je fasse quelque chose avant ma disparition, pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ce que je suis en train de faire. Je l'ai fait. En fait, j'ai terminé une grande partie de ça. Ce qu'on est en train de faire sur le cadre de ça aussi. Donc voilà. Je l'ai fait plus tard, mais c'est peut-être mieux, parce qu'il y a encore des choses peut-être qu'il faut dire, mettre dans dans cette biographie. Hein? Si j'ai encore la chance de vivre 2 ans ou 3 ans, il y a des choses qui vont se passer, quoi, je ne sais pas. Donc, vous savez que chez certaines personnes, la biographie se fait après sa mort. C'est quelqu'un d'autre qui écrit, vous savez. Moi, je l'ai fait moi-même avant. Donc, si j'arrête ça maintenant, si je vis encore 3 ans, il ne sera pas écrit dans ce livre-là.
Docteur Kapita, vous avez une résidence moderne à Gwazi. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Mais qui vous a parlé de ça?
J'ai vu les images.
Ah bon?
Avec la photo de votre père.
Ah, oui. Ok. C'est toujours la même chose. Je vous répète que moi, je suis un paysan. J'ai vécu dans la pauvreté. Pendant mon enfance, j'ai vécu dans la pauvreté. Mais comme la nature m'a permis d'étudier, d'arriver au niveau où je suis, je voulais toujours avoir un pied là-bas. J'ai une maison dans mon village paternel, j'ai une grande maison là-bas, avec, je crois, 300 ou 400 chambres à coucher, avec une douche dehors, une maison convenable. D'ailleurs, une fois, je suis allé au village avec un Belge, un ami, un Belge, avec sa femme et ses deux enfants, des petits-enfants comme ça. On a passé la nuit là-bas au village, 2 jours. Et ce monsieur-là, Peter Piot, n'était pas n'importe qui, un grand scientifique. C'est lui qui est venu quand le sida commence. C'est lui qui est venu à Mamaïmo pour faire l'enquête. Et puis, avec le temps, il est devenu le directeur de l'ONU sida. Il était secrétaire général de l'ONU. Jusque-là, on est resté des amis. Donc, on est avec lui au village, dans cette maison-là. Mais après, je me suis dit, il faut construire une maison à Louse. Mais pas seulement pour moi, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, mais pour n'importe qui. Vous, par exemple, si vous allez à Louse, vous voulez habiter quelque part, dans un certain confort, vous pouvez habiter là-bas. Il y a 2 jours, on m'appelait en disant il y a un Indien qui a passé 2 jours là-bas. Hier, on m'appelait pour dire qu'il y a un monsieur qui est un frère de Mantrezolo. Mantrezolo, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc, la maison est ouverte à n'importe qui. Je voulais mettre les conforts dedans, pour que celui qui habite là soit un peu à l'aise. Donc, je fais ça pour moi, pour les enfants, les petits-enfants, mais c'est pour tout le monde. Et quand le Premier ministre est allé à Lose, récemment, on nous a dit qu'elle allait habiter dans cette maison. José est parti, d'ailleurs pour ça, pour arranger la maison. Mais bon, elle n'a pas eu l'occasion de dormir là-bas, mais son équipe a passé la nuit là-bas. Et donc, une fois, j'avais demandé à l'administrateur du territoire, mais si vous recevez une autorité venant de Kinshasa, Premier ministre ou président de la République, où est-ce que vous le logerez à Louse? Vous n'avez rien. Je me suis dit, on va monter une structure plus ou moins convenable, c'est ce qu'on a fait. Et une fois même, on m'a appelé en disant, voilà, tu sais qui dit, va à Louse. On l'a invité là-bas, et il peut habiter chez vous. À ce moment-là, José était là à Louse avec ses enfants. J'ai dit, la maison est occupée, mais José qui est là va sortir le vendredi. Si lui, il arrive le samedi, il peut occuper la maison. Mais s'il arrive avant, place les athées. Bon, heureusement qu'il n'est pas allé loin.
Docteur Kapita, vous avez parlé de Yossé Bila, votre fils, qui est pratiquement le manager de la famille, il faut le dire. Alors, pourquoi médecine et cette spécialisation en cardiologie? Vous l'aviez dit peut-être avant, mais si nous pouvons les savoir des plus belles manières, parce que vous aviez insisté même, quand on vous proposait autre chose, vous aviez dit toujours la médecine ou rien. Mais pourquoi seulement la médecine?
Pourquoi seulement la médecine? Franchement, je ne sais pas. Mais je crois que, vous savez, on a une certaine empathie vis-à-vis des gens. En fait, le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est quoi? C'est rendre service. Aimer les autres, rendre service. Si vous êtes un millionnaire, un milliardaire, que vous n'aimez pas les gens, tout cela ne sert à rien. Le jour où vous mourrez, vous pouvez pas dire, prenez tous mes milliards que je parte avec. Tout ça va rester. Et malheureusement, les gens qui meurent, même pas là, ils n'ont même pas de chaussures. Hein. On leur met des chaussettes, ils partent comme ça, avec une chemise, un pantalon et tout ça. Tout reste. Donc, le plus important pour nous, quand on travaille, c'est de travailler pour soi et de travailler pour les autres. Donc, Et la médecine permet de le faire. Moi, je vis des drames. À mon village, des gens sont morts bêtement. Lorsqu'un enfant venait au village, on dispensait de l'état qui était là. Avec 40 températures, l'enfant mourait. Il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas de perfusion, il n'y avait rien. Aujourd'hui, une telle mort est impossible. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, une femme a accouché dans le village. À l'accouchement, elle est morte. Ce sont des jumelles. Et dans le village, il n'y avait pas une femme qui allaitait. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour ces enfants? Deux fillettes. J'ai demandé qu'on garde les enfants à l'hôpital pour les perfuser parce que les enfants étaient en train de mourir. Et nous avons eu la chance que notre fille Teza qui est là. Et elle a dit, je prends les enfants. On lui a dit, c'est compliqué. Elle a dit, je prends les enfants. Au moment où nous parlons, les enfants s'ouvrent à Mimosa, chez elles. Et c'est une joie immense pour nous. Tout ça, c'est parce que je fais la médecine. Parce que je suis à ce village. Parce que je consigne mes enfants. Vous savez qu'Étés a une boulangerie là-bas. Tout ça à cause de moi qui m'intéresse à la vie des paysans. Donc, comprenez que la médecine me permet de faire ça. Pour l'empathie, rendre service aux autres. J'aurais pu faire autre chose. Parce que j'avais une deuxième passion dans ma vie, c'est l'architecture. Je suis entré dans la chambre ici. Je fais des photos, bien que de... dans leur toilette, de leur salle de bain, leur douche, leur trouvis. J'aime bien des constructions. Quand je trouve une maison, j'ai déjà pris les mesures de la chambre ici. Hein.
Docteur Capita, vous avez également un cabinet privé. Parlons un tout petit peu.
Bon, en fait, le cabinet privé, c'était aussi un hasard. Parce que lorsque je suis arrivé à l'hôpital général, je ne travaillais qu'à l'hôpital général. Mais j'avais un ami norvégien qui s'appelait Docteur Kandal, qui avait un cabinet médical à Tombalbaye. Qui m'appelait parfois pour voir un malade qui avait un problème cardiaque, problème d'hypertension. Et je l'ai fait. Et puis un jour, il me dit, mais pourquoi tu viens pas? Fais des consultations de façon régulière. J'ai fait ça. Et puis, à un moment donné, il quitte le Congo pour rentrer définitivement en Europe. Il m'a dit, je vous vends le cabinet. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, non, vous payez petit à petit. Je vous donne mon compte bancaire et vous payez. Donc, il est parti. Moi, j'ai repris son cabinet. Je payais tout ce qu'il a demandé. Et depuis lors, donc, je suis à Mamayemo dans le cabinet privé. Le problème, c'est quoi? Vous savez que quand on est médecin, à maman et moi, on a un salaire de l'État. Au moment où j'étais encore payé, moi, mon salaire était de 80 dollars. À l'époque, 160 000. Tout ce que j'avais. Alors, on a maintenant la prime de risque, qui est de combien, je ne sais pas. Ce salaire d'à 80 dollars, moi, je l'ai tous pris depuis 3 ou 4 ans. J'ai demandé au secrétariat de la santé, pourquoi on ne paye plus? On m'a dit, c'est une erreur. On va vous payer. On ne paye pas. Donc, vous comprenez que sans le privé, on ne sait pas vivre. On ne sait pas vivre. J'ai connu beaucoup de médecins qui sont morts dans la pauvreté, qui vont mourir dans la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas compris à temps qu'il faut faire autre chose. Quand Dieu sait qu'on fait à Mamayemo. Mamayemo, c'est vraiment prendre service à la population. C'est presque pratiquement un service gratuit. J'étais même sollicité d'être médecin directeur de Mamayemo. J'ai dit non. J'étais convoqué par un ministre de la Santé là. Il m'a dit, docteur Capita, je vous nomme directeur. J'ai dit pourquoi? Parce que les gens viennent dire que c'est vous qu'il faut là-bas, vous travaillez beaucoup. J'ai dit, madame, c'était ce qui fanait. Je lui dis, les gens qui viennent vous dire que capitaine est bon, sont les mêmes qui vont venir vous dire que moi, je suis un voleur. Ça m'intéresse pas. Je connais des gens qui veulent être médecins directeurs. Si vous voulez, je vous donne leur nom. On n'a pas fait ça. Donc, c'est pas facile la vie ici. Mais bon, voilà. Je crois que il y a un trajectoire tracé pour chacun de nous.
Docteur Capita, vous avez des collègues, parce que nous avons parlé de d'autres médecins ici, entre autres le docteur Lusakweno, qui est le papa de notre confrère Christian Lusakweno. Je connais personnellement le docteur Chikou aux cliniques universitaires. J'ai vu que vous connaissez aussi le docteur Senga. Vous formez aussi les jeunes dans ces domaines des cardiologues. Ça vous fait quoi d'être entouré avec les personnes qui font le même métier que vous?
Bon, ça fait un plaisir. Vous savez que nous avons une vocation. On est médecin, c'est bon. On est cardiologue, c'est bon. Mais il faut former la suite. Je vous l'ai dit, lorsque j'étais le président de la Société congolaise de cardiologie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cardiologue. Même avant ça, lorsque j'étais un responsable à Mamayemo, je voulais former un cardiologue par province, au Mont Central, Bandundu, Équateur, province orientale, etc. Je voulais former un. J'ai envoyé en Europe monsieur du Congo Central. Il est allé là où moi j'ai étudié, en Belgique. Il a terminé. Au lieu de rentrer ici, il a pris le chemin du Canada. En nous parlant, ils travaillent au Canada. Il y a d'autres qu'on a envoyés en France, ils ne sont jamais revenus. Il y a un que j'ai formé sur place, de la province orientale, docteur Mossep. Il était chef des travaux à l'université là-bas. Malheureusement, il est mort. Donc, il y a un qui vient de rentrer du Maroc, il y a quelques semaines. Je sais qu'il va travailler. Donc, en fait, et avec l'actuel président de la Société congolaise de cardiologie, on a fait un programme de formation des cardiologues. J'ai la copie chez moi. On a donné cette copie aux universités qui ont des facultés de médecine pour qu'ils forment les cardiologues, pour nous remplacer. Et ça, c'est très important, parce que sinon, nous, on disparaît avec tout. Hein? Je suis content que parmi mes enfants, il y a un médecin. Mais nous avons cette obligation de former Vous savez ça, ça.
Vous êtes médecin, vous-même, docteur Capita. Comment faites-vous si vous avez des soucis ou un problème cardiaque?
Ah, bon, j'ai 86 ans, c'est vrai. Heureusement pour moi, je n'ai vraiment pas de soucis cardiaques. Jusque-là, en fait, le problème cardiaque, c'est quoi? C'est souvent l'hypertension qui peut se compliquer d'un problème cardiaque ou parfois d'un accident vasculaire cérébral. Jusque-là, je suis super tendu. Et je suis cardiologue. Chaque année, je suis un examen médical, faire un check-up. Ma tension, on fait un électro, mon cœur. Jusque-là, j'ai pas de problème. Mais si j'avais l'hypertension, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je traite des milliers de gens. Si j'ai un problème au cœur, je sais ce qu'il faut faire. Mais à ce moment-là, ce n'est pas à moi de faire ça. Je vais prendre un collègue cardiologue. Je lui dirai, voilà, j'ai tel problème. Pour moi, je pense qu'il faut faire ça. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Un collègue cardiologue, parce qu'on peut pas soigner de se soigner soi-même. Il faut se confier à un collègue pour qui on a beaucoup de confiance. Et il y en a. Docteur Chico, on a été en Belgique, à Louvain, ensemble. On a terminé presque en même temps. Je suis revenu plus tôt que lui, parce que lui, il a fait l'agrégation. Votre professeur, il est cardiologue pédiatre. Moi, on m'a proposé de faire l'agrégation là-bas. Mon prof s'appelait Crémer. Je dis à Crémer, monsieur Crémer, vous devez savoir que moi, je suis parti du néant. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Ils ont fait de moi ce que je suis. Ils sont encore en vie. Il faut que je rentre maintenant. Travailler pour les aider avant qu'ils ne meurent. Je suis pas venu ici pour faire l'agrégation. J'ai dit, il y a un monsieur qui est venu là. Il y a un cardiologue là-bas qui s'appelait Kanza. C'est lui qui est venu pour faire l'agrégation. Il m'a dit, mais c'est idiot. Tu vas pas faire l'agrégation. J'ai dit, je suis pas venu ici pour ça. Si je dois faire l'agrégation, je ferai ça là-bas du pays. Je suis rentré au Congo. J'ai vécu avec mes parents pendant 15 ans avant qu'ils ne meurent. Je suis content parce que je travaille pour eux. Je leur ai dit merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, je connais très bien Professeur Chico. On est des amis. Il y a pas longtemps qu'il m'a appelé. Hein, mais lui, il travaille plus, hein. Il a de l'âge. Il est professeur émérite. Celui qui l'a remplacé, Senga, cardiologue pédiatre. Donc, il y a du cardiologue de Ngaliema. Il y a docteur Kongo qui est là. Le médecin directeur de Ngaliema. C'est un cardiologue, docteur Kongo. Takombe est là. Il y a Limbole qui est là. Et d'autres jeunes qui sont là. Au plus universitaire, il y a des profs de cardiologie. À qui j'ai appris à faire l'écho cardiaque. Il y a Bernard qui est là, et puis il y a Nathan, des jeunes comme ça. Donc, moi, je suis content d'avoir quand même fait quelque chose pour les jeunes. Et voilà.
Merci beaucoup, docteur Capita Bila Joseph. C'était un plaisir. Grand Témoin vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Kaki Akiewa, coordination et réalisation Alain Irung Mochinge, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radioocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.